Le journal est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. À Calais, Emmanuel Macron remercie les forces de l'ordre et appelle les associations qui aident les migrants à se montrer plus responsables. Il y a un devoir d'humanité, mais il y a aussi le devoir de respect de la loi de la République, déclare le chef de l'État. L'assurance maladie confirme la hausse des affections psychiques liées au travail et les risques psychosociaux augmentent avec la montée en puissance des plateformes numériques. Ce sera le dossier de ce journal. Le Parlement européen s'oppose à la pêche électrique, une première victoire pour les opposants à cette pratique jugée destructrice pour les fonds marins. L'Union européenne s'apprête à retirer 8 pays de sa liste noire des paradis fiscaux. Le Panama, notamment, va passer sur la liste grise, celle des pays qui ont pris des engagements de bonne conduite en matière fiscale. Droit dans ses bottes. Lors de sa visite à Calais, Emmanuel Macron a balayé les critiques des associations sur sa politique migratoire. Le chef de l'État vante l'équilibre du futur projet de loi Asile et Immigration qui sera présenté en Conseil des ministres le mois prochain. Emmanuel Macron a prononcé un discours particulièrement offensif, Laurence Perron.
Chef de l'État, chef des armées, garant de l'ordre républicain, c'est sur un mode martial qu'Emmanuel Macron s'est adressé aux gendarmes et policiers de Calais.
Je ne peux pas laisser accréditer l'idée que les forces de l'ordre exerce des violences physiques, confisque des effets personnels, réveille les personnes en pleine nuit, utilise du gaz lacrymogène sur des points d'eau ou au moment de la distribution des repas. Si cela est fait, c'est contraire à toute déontologie. Si cela est fait et prouvé, cela sera sanctionné.
La contrepartie est la suivante.
Je ne tolérerai jamais que l'on travestisse la vérité. Face à ces dénonciations, faites sans éléments de preuve et non portées à la connaissance de la justice, soit les faits dénoncés ne sont pas avérés et relèvent de la diffamation, la réponse de l'État sera claire. Saisir la justice en cas de diffamation ou d'injure et apporter tout le soutien juridique aux préfets et aux forces de l'ordre. En la matière, il n'y a pas de demi-vérité.
Aux associations qui contestent sa politique d'un asile digne mais responsable, il retire le droit d'organiser des distributions de nourriture lorsqu'elles créent des points de fixation pour les réfugiés.
Mais notre honneur n'est pas simplement d'avoir des déclarations faciles, non pas une situation d'expédient, la promotion de l'illégalité, l'impasse.
Enfin, chef de file d'une Europe qui doit prendre à bras-le-corps la question migratoire, il souhaite un office européen de l'asile et remettre sur la table notamment les accords du Touquet.
En 2017, la France a accordé plus de titres de séjour. Les titres accordés à des réfugiés ont augmenté de 35%. Mais il y a eu parallèlement une hausse des expulsions d'étrangers en situation irrégulière, plus 14,6%. La ministre de la Justice a passé une journée agitée dans le Pas-de-Calais. En début d'après-midi, Nicole Belloubet est sortie de la prison de Vendin-le-Vieil, théâtre jeudi dernier de l'agression de 3 surveillants par un détenu. Après un premier blocage hier, les surveillants très remontés ce matin avaient annoncé vouloir bloquer la sortie de la garde des Sceaux tant qu'ils n'obtiendraient pas satisfaction. Nicole Belloubet a finalement passé près de 5 heures dans la prison pour discuter avec les surveillants syndicats. Elle a aussi dressé une liste de 10 promesses pour le centre de Vendin-le-Vieil, Xavier de
Oui, la ministre s'est d'abord engagée à faire monter d'un grade les surveillants agressés, de la reconnaissance accompagnée d'une augmentation pécuniaire pour ces surveillants. Concernant les 10 propositions très concrètes adressées aux surveillants de cet établissement pénitentiaire en particulier, il s'agit par exemple d'une hausse des effectifs d'encadrement, de formation supplémentaire pour les surveillants et puis la livraison de matériel de sécurité en plus. Promesse aussi du maintien des 2 équipes d'élite de la prison, ainsi que de l'étude du transfert de certains détenus. Par ailleurs, le quartier d'évaluation de la radicalisation qui devait être mis en place à Vendin-le-Vieil verra son installation retardée d'un mois. Après une rencontre avec les surveillants blessés, puis une très longue discussion avec les représentants du personnel, la garde des Sceaux s'est adressée à l'extérieur, à ceux qui bloquaient la prison. Nicole Belloubet s'est engagée à revenir sur place dans 2 mois, très précisément, le vendredi 16 mars, pour mesurer, a-t-elle dit, si ces propositions ont réellement pris corps. Alors tout ça concerne le centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Quant à la situation nationale, les organisations représentatives ont donné leurs propres propositions à la ministre. La garde des Sceaux qui promet des négociations dans les meilleurs délais. De leur côté, les syndicats se disent plutôt entendus mais restent prudents et s'interrogent ce soir sur les suites à donner à leur mouvement.
La Cour de justice de la République va ouvrir une enquête contre Jean-Jacques Urvoas pour violation du secret professionnel. L'ancien garde des Sceaux est soupçonné d'avoir transmis au député Thierry Solaire des informations sur une enquête pour fraude fiscale le concernant. C'est le premier employeur de l'Aveyron, mais l'usine Bosch de Rodez craint pour son avenir. L'usine produit des pièces automobiles à destination de moteurs diesel. Or le diesel, du moins dans les discours gouvernementaux, n'a plus le vent en poupe. Si l'avenir ne s'éclaircit pas, 1600 emplois sont menacés. Une intersyndicale a été reçue aujourd'hui à Bercy. En attendant la visite et peut-être des annonces du patron mobilité du géant allemand qui a déjà fermé plusieurs sites Bosch en France, Anne Lorchouin.
Oui, un GMES en puissance, c'est ainsi que l'intersyndicale qualifie la situation dans l'usine Bosch à Rodez, la Bosch comme on l'appelle dans l'Aveyron. Pour l'instant, aucun plan de suppression d'emplois n'a été acté, mais depuis un an et demi, les salariés sont extrêmement vigilants. Vous l'avez dit, l'usine de Rodez produit exclusivement des pièces à destination de moteurs diesel, un diesel qui n'est plus en odeur de sainteté, qu'ont fait les annonces de Ségolène Royal en son temps, puis du gouvernement actuel. Si Bosch décidait de baisser, voire de supprimer ses lignes de production, c'est tout un territoire qui en pâtirait. Julien Rull est délégué sud de Bosch à Rodez.
Bosch représente 1600 salariés avec les familles. Ça induit à peu près 8 à 10 000 emplois indirects. Donc sur un territoire qui compte à peu près 80 000 habitants, ça serait une catastrophe qu'on pourrait assimiler comme si Airbus partait de Toulouse.
Une inquiétude qui se fonde sur le projet actuel de modifier une ligne de production sur deux, ce qui amènerait à un sureffectif de fait de 350 à 400 salariés, sans compter que depuis plusieurs années, les investissements de Bosch sur le site de Rodez se sont réduits comme peau de chagrin. Julien Rull.
Bosch, la France, est son deuxième marché en termes de chiffre d'affaires en Europe. C'est 4 milliards réalisés en chiffre d'affaires en France. Et à côté de ça, Bosch, sur les trois dernières années, a investi à peine 500 millions d'euros, et surtout sur des bâtiments commerciaux et pas sur l'outil industriel. Bosch a plutôt favorisé la France comme terre de business et pas comme une terre d'industrie et d'investissement.
Alors à Bercy, tout à l'heure, les syndicats ont demandé le soutien de l'État français qui pourrait intervenir, demande-t-il, auprès des constructeurs automobiles français, PSA et Renault, pour qu'ils se fournissent en priorité chez Bosch Rodez plutôt que dans les sites de Bosch en Turquie ou en Tchéquie, comme ils le font actuellement. Bercy a prêté une oreille attentive sans s'engager.
Anne Lorchouin. Les contrats aidés, c'est fini, du moins sous cette appellation, car à la place, la ministre du Travail lance les parcours emploi compétences. Muriel Pénicaud a détaillé aujourd'hui le nouveau dispositif imaginé suite au rapport de Jean-Marc Bourrello du groupe SOS. Alors avec ces parcours emploi compétences, qu'est-ce qui change, Sarah Lemoine?
La ministre du Travail a annoncé non pas la disparition, mais la transformation des contrats aidés. Muriel Pénicaud a tout d'abord confirmé que les entreprises privées n'en bénéficieront plus. Ces contrats subventionnés par l'État sont désormais uniquement réservés aux associations et aux collectivités locales. Rebaptisés parcours emploi compétences, ils sont toujours destinés aux personnes éloignées de l'emploi. Mais pour en bénéficier, les employeurs du social et les collectivités, c'est là la nouveauté, devront respecter trois engagements. La personne recrutée devra être accompagnée, mise dans l'emploi et formée pendant son contrat. L'objectif étant d'insérer ces personnes durablement sur le marché du travail, ce qui n'était pas toujours le cas avec les contrats aidés anciennes versions. Dans le nouveau dispositif, si un employeur n'a pas respecté ses engagements, il ne pourra plus utiliser ce type de contrat. Une circulaire a été envoyée ce matin au préfet pour une application immédiate du dispositif.
L'assurance maladie a recensé plus de 10 000 accidents du travail et 596 maladies professionnelles en 2016. Et la CPAM constate une hausse continue sur 5 ans des troubles psychosociaux liés au travail. Parmi les travailleurs, ceux des plateformes numériques sont particulièrement exposés aux risques psychosociaux. Or, ces plateformes sont en pleine montée en puissance et ce, dans tous les domaines, livraison, bâtiment ou même travail intellectuel en freelance. Bonsoir Catherine Pétillon.
Bonsoir.
L'INRS, l'Institut National de Recherche et de Sécurité pour la Prévention des accidents du travail, c'est donc penché sur les conséquences que pourraient avoir ces évolutions sur la santé des travailleurs.
Oui, et ce qu'il souligne, c'est que ces travailleurs sont plus exposés que d'autres à certains risques. D'abord parce qu'ils sont moins protégés. En se posant comme de simples intermédiaires entre travailleurs et donneurs d'ordre, les plateformes s'exonèrent de toute responsabilité en matière de protection sociale et n'ont pas les obligations d'un employeur classique sur la sécurité et la santé au travail. Par exemple, si un livreur à vélo est renversé par une voiture, ce n'est pas couvert comme un accident du travail, pas de remboursement complet de ses frais de santé, ni d'éventuelles rentes d'invalidité. Seule avancée récente, la loi El Khomri permet aux travailleurs de souscrire une assurance privée, en partie financée par les plateformes. Jérôme Pinault est le fondateur du CLAP, collectif de coursiers à vélo.
Le principal risque, c'est de faire reposer trop de responsabilités sur le travailleur qui se retrouve isolé, qui se retrouve subordonné à une plateforme et qui est hyper exposé aux dangers, notamment physiques, mais surtout psychosociaux. On se rend pas compte de la pression sur un livreur qui, par exemple, fait du vélo dans Paris toute la journée et est exposé à 50 dangers à l'heure. Si on correspond plus aux critères de la plateforme, alors on se retrouve sans boulot du jour au lendemain. L'application sur laquelle on travaillait ne fonctionne plus.
Il risque ainsi tout autant d'être déconnecté par leur employeur que d'avoir un accident. Ces organisations exposent leurs travailleurs à des risques spécifiques liés à la performance ou encore à l'évaluation permanente, puisque les plateformes reposent sur des systèmes de notation et de réputation en ligne. À cela s'ajoute une grande solitude au travail, souligne Marc Malenfer, chargé de mission à l'INRS.
D'une part, on a un travail qui est prescrit via une intelligence artificielle, donc qui laisse pas beaucoup de marge de manœuvre aux opérateurs. L'autonomie au travail est un facteur important, c'est-à-dire avoir des marges de manœuvre, pouvoir intervenir sur la manière de faire le travail. Donc ça, c'est déjà une première inquiétude. D'autre part, on est face à des travailleurs qui sont dans une relation individuelle avec la plateforme, et donc on a dans ces situations-là pas de collectif de travail. Or, on sait que la prévention, c'est un sport collectif.
Les plateformes auraient pourtant tout intérêt à investir dans la prévention, affirme l'INRS, ne serait-ce que pour fidéliser leurs travailleurs. Alors certes, on estime à seulement 200 000 le nombre de professionnels des plateformes en 2016, mais pour l'économiste Odile Chani, chercheuse à l'IRES, ces mêmes logiques sont à l'œuvre aussi dans l'entreprise traditionnelle. Avec Sharers and Workers, réseau de travail sur l'économie collaborative, elle élabore des outils de protection comme cela existe déjà à l'étranger.
Ça peut être par exemple s'engager dans des codes de bonne conduite. On a un exemple qui a été mis en place en Allemagne entre des plateformes qui se sont elles-mêmes fédérées dans une fédération des plateformes et puis des représentants plutôt de collectifs de travailleurs, notamment syndicaux, qui en fait s'engagent ensemble pour déterminer des bonnes pratiques. Et ce qu'on porte dans le réseau Sharers and Workers, c'est notamment avec les acteurs de plateforme en France, d'expérimenter de la protection. On a proposé, par exemple, de créer des observatoires qui seraient, pourquoi pas, des lieux où on pourrait labelliser des produits complémentaires de protection santé, par exemple.
Alors que les collectifs s'organisent, la question de la protection sociale des travailleurs des plateformes va revenir dans les débats par un autre biais, la question de leur éventuelle couverture par l'assurance chômage, actuellement en négociation.
Catherine Pétillon. La croissance de la population française continue de ralentir. En 2017, note l'INSEE, la France comptait 67,2 millions d'habitants, seulement 0,3% de plus qu'en 2016. Le solde naturel, c'est-à-dire la différence entre le nombre de décès et de naissances, est historiquement bas. Il n'a jamais été aussi faible depuis l'après-guerre. Une explication, Mélanie Juvet, c'est la baisse des naissances, mais elle n'est pas forcément une fatalité.
C'est pourtant la troisième année de baisse consécutive des naissances. En 2017, 767 000 bébés sont nés, 17 000 de moins qu'en 2016. Une des causes, la fécondité des femmes recule, selon l'INSEE, avec 1,88 enfants par femme en moyenne. Mais pour Gilles Pison, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle, chercheur associé à l'Institut National d'Études Démographiques, si la reprise économique se confirme, elle pourrait inverser cette tendance.
Le chômage semble baisser, la confiance dans l'avenir augmenter, et donc c'est pas exclu qu'on observe un arrêt de la baisse de l'indicateur de fécondité, ce qui voudrait dire que ces couples qui ont attendu pour avoir un enfant, parce que les conditions n'étaient pas favorables, finalement se mettront à les avoir.
Autre facteur, la baisse conjoncturelle des naissances est plus tardive en France que dans les autres pays européens, explique Laurent Toulmont, il est démographe à l'INED.
En France, on a l'impression que les comportements ont résisté, disons, à l'arrivée de la crise, et ça n'est qu'avec un temps de retard important que le nombre de naissances baisse, ce qui nous incite à penser que on va avoir le même phénomène qu'on observe dans les autres pays, c'est-à-dire qu'après deux ou trois années de baisse, la fécondité pourrait se stabiliser, voire remonter légèrement.
De là à imaginer un mini baby-boom, pas sûr pour les démographes. La France reste malgré tout le pays de l'Union européenne où la fécondité est la plus élevée.
Mélanie Juvet. Première victoire pour les opposants à la pêche électrique. Le Parlement européen s'engage dans la lutte contre cette pratique très décriée. Les eurodéputés ont voté pour l'interdiction totale de la pêche électrique, actuellement autorisée à titre expérimental en mer du Nord. On retrouve Ania Vogel à Strasbourg.
On pensait que le vote serait serré. Finalement, c'est à une très forte majorité, 170 voix d'écart, que le Parlement européen s'est prononcé pour un retour à une interdiction totale de la pêche électrique contre l'avis de sa propre commission de la pêche et de la commission de Bruxelles, accusée d'avoir occulté un avis négatif de son comité scientifique. Isabelle Thomas, du groupe socialiste.
C'est une vraie victoire qui n'était pas gagnée d'avance, puisque la Commission européenne, au départ, voulait une généralisation totale dans toutes les eaux européennes de la pêche électrique. Donc c'est une victoire du Parlement et puis c'est une victoire pour le développement du Rhin et on préservera aussi la capacité pour les pêcheurs de continuer à prélever une partie de cette ressource qu'il est tout à fait agréable d'avoir dans nos assiettes.
Reste maintenant à en convaincre les États membres, à commencer par la France, qui était sur une position plus souple que ses eurodéputés, à savoir le maintien du statu quo. Alain Cadec, président de la Commission de la pêche du Parlement européen, avait d'ailleurs prévu un amendement de repli dans ce sens en cas d'échec.
C'est vrai que Stéphane Travert, notre ministre, il était plutôt sur la proposition qui permettait de maintenir 5%, mais vraiment 5%, pas davantage. Et puis de limiter l'espace dans la partie sud de la mer du Nord. Maintenant, aujourd'hui, grâce à nos voix, c'est l'interdiction totale qui est passée. Donc la France devra, j'espère, en tous les cas, défendre cette position.
Ce ne sera évidemment pas celle défendue par les Pays-Bas, furieux de ce vote qui constitue une menace pour une partie de leurs pêcheurs. 28% de leur flotte pratique la pêche électrique, essentiellement des pêcheries industrielles puissantes.
L'invité du journal de 22h sera l'eurodéputé écologiste Yannick Jadot pour évoquer ce sujet. Un mois à peine après avoir publié une liste noire de 17 paradis fiscaux, l'Union européenne s'apprête à faire passer 8 pays dans la liste grise, celle des pays qui se sont engagés à rentrer dans les clous. La décision sera entérinée mardi prochain lors de la réunion des ministres des Finances de l'UE, mais elle a déjà été éventée et non démentie. Le commissaire européen à la fiscalité, Pierre Moscovici, s'est d'ailleurs réjoui ce matin lors de ses vœux à la presse, Marie Viennet.
Oui, parce que c'est le principe de ce genre de liste. Dans la liste noire, les pays que l'on veut montrer du doigt pour leurs pratiques fiscales non coopératives, et dans la liste grise, ceux qui ont promis d'en finir avec ces pratiques. La vocation de la liste noire, c'est d'être vide à terme, a expliqué Pierre Moscovici. C'est là qu'elle aura eu une utilité. Alors que 8 pays passent prochainement de la liste noire à la liste grise n'est pas donc mauvais en soi. Reste à savoir cependant quels engagements ces pays ont pris. Or, pour le moment, on ne sait pas. Et rien ne dit d'ailleurs qu'on le saura un jour. Mais le commissaire européen à la fiscalité a ce matin intimé les pays européens à publier ces engagements. Alors, ces 8 pays qui quittent la liste noire, ce sont les Émirats Arabes Unis, Panama, la Corée du Sud, la Tunisie, la Mongolie, Macao, Grenade et la Barbade. Ils rejoignent donc les 47 pays de la liste grise qui ont jusqu'à la fin de l'année pour les plus avancés et 2019 pour les moins avancés pour honorer leurs engagements. Dans la liste noire, il ne reste donc plus que 9 États, ou plutôt des micro-États, Guam, les îles Marshall, la Namibie, les Palau, Samoa, les Samoa américaines, Sainte-Lucie, Trinidad et Tobago et Bahreïn. Reste maintenant à définir des sanctions pour ceux-là, ceux qui sont dans la liste noire. Sanctions autres que la honte de figurer sur cette liste. La Commission européenne doit d'ailleurs faire des propositions dans les semaines qui viennent et ce sera ensuite aux États membres de décider quoi en faire concrètement.
Marie Viennot. Alors que Pristina et Belgrade devaient reprendre leur dialogue à Bruxelles, un important homme politique serbe du Kosovo a été assassiné à Mitrovica. Oliver Ivanovic, un chef de file des Serbes du Kosovo présenté comme modéré, a été abattu devant le siège de son parti. 10 ans après la proclamation d'indépendance du Kosovo, cet assassinat risque de tendre encore la situation intercommunautaire, très fragile dans cette ville toujours divisée. Faut-il encore durcir les sanctions contre Pyongyang? À l'initiative des États-Unis, une réunion des pays alliés lors de la guerre de Corée est organisée à Vancouver, au Canada. La Grande-Bretagne, l'Australie, la France, la Turquie sont notamment représentées. Chine et Russie, en revanche, ont refusé de participer à ces discussions. La correspondance de Pascal Guéricola.
Ce n'est pas la première fois que le Canada met à profit son légendaire pacifisme pour essayer de calmer le jeu dans un conflit potentiel entre deux pays. En 2013 et 2014, des discussions entre les États-Unis et Cuba avaient eu lieu sur le sol canadien. Selon la ministre canadienne des Affaires étrangères, il faut absolument miser sur la diplomatie pour baisser les tensions actuelles avec la Corée du Nord. Un message qui pourrait s'adresser aussi bien à Pyongyang qu'aux membres de l'administration Trump. Les sanctions contre le régime de Kim Jong-un vont également être abordées par les pays réunis autour de la table, ainsi que la question de la non-prolifération des armes nucléaires. Cependant, l'absence de deux acteurs majeurs de ce conflit, la Chine et la Russie, compromet le succès de cette rencontre. Les Russes n'ont pas apprécié d'ailleurs de ne pas figurer sur la liste des invités. Leur ministre des Affaires étrangères a déclaré hier que cette rencontre au Canada constituait une menace pour les efforts de paix en Corée du Nord. De son côté, la Chine considère que cette réunion va créer des divisions dans la communauté internationale.
Donald Trump a tout de même pu s'entretenir au téléphone avec son homologue chinois et les deux présidents sont d'accord sur un point. La reprise du dialogue intercoréen donne l'espoir que Pyongyang puisse modifier son comportement destructeur. La météo, demain, amélioration à l'ouest, des averses à l'est et des vents forts sur la Corse, en montagne et près de la Manche. Il fera entre 2 et 10 degrés le matin, 4 à 12 l'après-midi, 12 à 15 dans le sud-est. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.